Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 30 octobre, le match hier entre l'OM et l'OL a été annulé. Le bus de l'Olympique lyonnais en déplacement à Marseille pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 a été caillassé. L'entraîneur Fabio Grosso a été blessé. Dans deux jours, la trêve hivernale et pourtant les occupants de la pyramide à Gerland doivent être expulsés ce matin. Des tags antisémites découverts samedi sur la façade d'une école au Brotteau. La métropole veut planter massivement des arbres dans l'espace public, y compris au pied des copropriétés ou des logements sociaux. Reportage dans cette édition, en particulier à la résidence Seigneur Thiers, où 60 arbres et arbustes ont été plantés grâce à ce dispositif.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord la météo et l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère qui restent en vigilance jaune au vent ce lundi. La pluie sera de retour à Lyon cet après-midi. Le bus de l'Olympique lyonnais en déplacement à Marseille pour la 10e journée de Ligue 1 a donc été caillassé à l'approche du vélodrome. Une vitre a explosé, blessant l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Fabio Grosso. Une cellule de crise s'est réunie et a décidé immédiatement d'annuler le match. Ce n'est pas un incident, c'est une attaque de hooligans marseillais qui salissent le football et la ville de Marseille. C'est totalement inadmissible. Ils doivent être bannis du foot et traduits en justice. Ce sont les propos de Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, sur Twitter. Un quart de supporters lyonnais a lui aussi été violemment visé par des tirs de projectiles. Toutes les vitres du véhicule ont explosé. Amélie Oueda-Castéra a apporté son soutien à l'Olympique lyonnais. La ministre des Sports a affirmé qu'un premier suspect avait déjà été interpellé. L'Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement également au coach lyonnais Fabio Grosso et condamne fermement les comportements de violence qui n'ont aucunement leur place dans le monde du football et dans la société. Il appartiendra désormais à la commission des compétitions de se prononcer sur le sort de cette rencontre, à rejouer ou décision sur tapis vert. L'Olympique lyonnais a annoncé en tout cas vouloir porter plainte après les incidents de ce dimanche soir. Deux jours avant la trêve, les occupants de la pyramide à Gerland doivent être expulsés ce matin. La pyramide, c'est un ancien immeuble de bureau. Il abritait l'Ips au rez-de-chaussée, mais cet ensemble est désaffecté dans l'attente du démarrage d'un projet immobilier. Depuis l'été 2021, il est squatté. Maintes fois annoncé, l'expulsion a lieu ce matin. Aucun logement de repli n'a été proposé selon le collectif InterSquat. 250 personnes seraient abritées dans ce bâtiment. Suite à une décision de justice autorisant l'expulsion, les habitants étaient censés avoir quitté les lieux le 12 septembre. La préfecture devrait préciser aujourd'hui les mesures d'accompagnement qui seront prises pour prendre en charge les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Des tags antisémites ont été découverts samedi sur la façade d'une école publique au Brotteau. Salle juive et Viva Palestine ont été tagués sur la façade du groupe scolaire Montagne Ferry. Une plainte avait été déposée par le CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, Auvergne-Rhône-Alpes, déplore que depuis le début du mois d'octobre, ces tags fleurissent un peu partout à Lyon. La préfecture est très vigilante face à ces actes antisémites. Elle a mis en place une surveillance particulière des lieux sensibles. À partir de 11h30 ce matin, le CRIF organisera un rassemblement en solidarité avec les enfants israéliens pris en otage par le Hamas depuis plus de 20 jours. Un rassemblement qui aura lieu place des Jacobins. 30 poussettes vides seront disposées sur la place, représentant symboliquement les 30 enfants retenus par le Hamas. Une information judiciaire pour mise en danger d'autrui a bien été ouverte concernant la pollution au PFAS. Vous savez, ces substances polluantes très persistantes dans l'environnement. C'est le parquet de Lyon qui l'a confirmé vendredi. Notez que cette information judiciaire fait suite à la constitution de partie civile de la commune de Pierre-Bénite concernant ces composants toxiques. Deux juges sont saisis. En effet, une autre procédure est en cours à la suite de l'action en justice d'un collectif porté par l'association Notre Affaire à Tous. Il s'agit d'un référé environnemental lancé en mai dernier et qui vise les industriels Arkema et Dequin à Pierre-Bénite, deux industriels utilisant des perfluorés.
Lyon demain, Jardin Perché.
Pour adapter notre territoire au réchauffement climatique, la métropole de Lyon plante massivement des arbres dans l'espace public. Oui, mais voilà, 70% des espaces verts du territoire sont situés sur des terrains privés. C'est pourquoi la collectivité a décidé d'accompagner aussi les immeubles d'habitation quand il s'agit de copropriétés ou de logements sociaux. Faire financer des plantations d'arbres, c'est possible. Pierre Athanase, vice-président de la métropole de Lyon, nous rappelle les conditions.
Le dispositif est variable, c'est 50% des plantations, c'est la mise de fonds, et après il y a un bonus de 10% si un certain nombre d'arbres ou arbustes qui sont plantés ont le label végétal local de l'Office français de la biodiversité, et encore un bonus de 5% s'il y a des arbres ou des arbustes fruitiers comestibles, donc pour les gens, ce qui fait qu'on peut passer à un dispositif de 65% des plantations, mais à savoir qu'on accompagne également les études qui sont faites en amont et qu'à la demande on peut également accompagner les plantations après avec des associations qui vont travailler avec les résidents de ces copropriétés ou de ces immeubles sociaux. Et on essaye autant que faire se peut, et c'est pour ça que c'est important que la métropole puisse aider au projet en amont, c'est par exemple d'avoir des composteurs qui sont communs, où le compost qui va être réalisé avec les déchets ménagers de tout le monde puisse être mis à disposition des arbres qui sont plantés sur la copropriété. Être vraiment dans du circuit court, créer un lien social justement autour de ces plantations entre les habitants de ces résidences.
À la résidence senior Thiers, dans le jardin Attenant, en lieu et place de vieux terrains de golf, des dizaines d'arbres ont été plantés. Des pêchers, poiriers, mûriers, une quarantaine d'arbustes, des plantes fleuries ou encore des haies de petits fruits rouges agrémentent désormais les jardins de la résidence. Christine, 65 ans, est dans cette résidence gérée par le CCAS de Lyon. Depuis un an, elle a pu apprécier le changement.
Qu'est-ce qui a changé? Tout. Parce que c'était tout comme ça, avec des herbes qui n'étaient même pas souvent entretenues, pas souvent de tondeuses. Et donc, ils ont fait un chemin et ils ont planté 18 arbres. Et on a même goûté des pêches cette année.
Et vous avez participé?
Oui, voilà.
Qu'est-ce que vous avez fait, vous, alors?
On a creusé un peu. Avec notre force, on n'était pas très efficaces, donc ils nous ont aidés. Et après, on mettait les arbres, on ramenait la terre et on mettait la paille.
C'est important pour vous de participer aussi à l'élaboration d'un espace un peu commun, comme ça?
Ah oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'on était comme petit groupe. On est trois à avoir un chien qui venions ici. Personne ne venait. Et quand même, maintenant, il y a d'autres personnes qui viennent, maintenant que c'est joli. Moi, je viens avec mon chien, et puis comme on est plusieurs, on se réunit, il y a d'autres personnes qui viennent, on discute, on refait le monde.
Conséquence, les résidentes et résidents profitent bien plus volontiers aujourd'hui de cet espace. Les jardins étaient désertés avant que ces plantations ne soient réalisées. Alexandre Chevalier, adjoint au maire, en charge de la qualité de vie des aînés.
Il y a deux enjeux majeurs, déjà répondre aux enjeux climatiques et écologiques. Et le deuxième, qui est tout aussi important, voire même plus important, c'est répondre à la bonne santé de nos aînés et au bien-être de nos aînés. Je crois qu'on a un tas d'études aujourd'hui qui montrent le bienfait effectivement d'être en contact avec la nature, de pouvoir avoir des espaces où on va se détendre, on va discuter, on va se socialiser. Donc voilà, il y avait pour moi ce double enjeu-là. D'où l'importance aussi d'accompagner ces projets avec les résidents. Effectivement, on les accompagne à co-construire un projet de végétalisation, que ça ne soit pas quelque chose qui tombe du ciel, mais qu'au contraire, ils soient aussi acteurs de cette végétalisation pour après être utilisateurs et acteurs surtout de leur jardin. Les premiers effets là, qu'on constate sur cette résidence, déjà, c'est une meilleure occupation du jardin, parce qu'auparavant, il n'y en avait aucune, vu qu'on était sur un espace quasi vide. Donc, on a des personnes, effectivement, maintenant, qui descendent de leur chambre, qui viennent, effectivement, passer une après-midi ou quelques heures dans le jardin, discuter avec d'autres résidents. Et ça, pour nous, c'est un moment extrêmement important, encore plus au sortir du Covid où on a eu un isolement et des personnes ont ce qu'on appelle glissé à cause de l'isolement. Donc là, on essaie de mettre tout en œuvre effectivement pour que les personnes reprennent goût un peu à la vie, reprennent goût au lien social.
C'est un espace de partage, on peut appeler ça comme ça?
On peut appeler ça comme ça, et puis on va le voir à l'avenir. Je pense quand les arbres fruitiers vont se développer, etc., qu'il y aura sans doute peut-être des cueillettes collectives, des choses comme ça, des temps peut-être de jardin aussi collectif. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on espère en tout cas pour la suite.
La métropole a fait appel à des entreprises locales et à des associations pour bâtir les projets de végétalisation et pour animer les jardins. Pour la résidence Thiers, c'est Colibri Urbain qui est intervenu. L'entreprise propose une valorisation sociale, écologique et économique des espaces verts dans l'habitat collectif. Nous avons rencontré Lucas Yomi, dirigeant de Colibri Urbain.
L'idée, c'est d'impliquer le plus possible les résidents dans nos projets, depuis l'idéation jusqu'à la mise en œuvre. Donc ça passe par des questionnaires, des présentations, des sensibilisations aux bonnes pratiques de jardinage, à l'écologie, et puis de façon un peu plus factuelle, à la plantation par exemple participative des végétaux, qui, je dirais, permet de les reconnecter à la terre, de les reconnecter à leurs espaces, et derrière d'inscrire les projets dans le temps, puisque les résidents ensuite ont la volonté de s'impliquer pour entretenir les végétaux qu'ils ont plantés, et puis peut-être en profiter s'il s'agit de fruitiers par exemple.
Quel type de jardin on peut créer ici à Lyon? C'est toujours le même type de jardin, quelles que soient les résidences, ou il y a des cas particuliers?
Alors non, tout l'enjeu effectivement réside dans le fait de faire participer les résidents le plus possible et les interroger sur l'histoire qu'ils ont eue par exemple avec des jardins par le passé, si ils ont une affection particulière pour un arbre par exemple, parce que souvent on n'en parle pas de ça, c'est assez intime finalement comme question. Si demain je vous demande si vous avez un lien particulier avec un arbre, peut-être que vous me répondrez directement ou pas, et de tenir compte de ces réponses pour choisir les végétaux. Et donc chaque jardin du coup ressemble à ses résidents plutôt qu'à une vision ornementale qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant et que encore beaucoup de, je pense, paysagistes entretiennent.
Il y a cette question du climat, les végétaux subissent le climat et puis aussi ils participent à lutter contre les îlots de chaleur. Alors comment ça se gère tout ça?
Un indispensable par rapport au climat, c'est effectivement d'essayer de densifier les plantations pour obtenir des couverts végétaux. Bien sûr, avoir des strates qui soient différentes, les trois strates, arbustives, herbacées, pour répondre à la fois à une diversification, une variété, mais les végétaux se protègent entre eux de la chaleur. Donc quand l'arbre pousse, il va protéger en dessous finalement les strates qui sont un petit peu plus basses, au profit donc de la végétation et aussi au profit des résidents et des personnes qui occupent les jardins. Bon, l'arrosage des végétaux lorsqu'on les plante, et notamment des arbres, est très important, encore plus je dirais dans le contexte du réchauffement climatique. Arroser ces arbres nouvellement plantés pendant 3 ans, c'est un indispensable pour que les racines aillent en profondeur et que finalement le végétal s'installe et soit plus résilient face aux variations climatiques dans l'avenir.
Planter, arroser, entretenir, j'ai entendu, c'est les trois mots-clés. Tout le monde doit y participer, c'est-à-dire que vous à la fois qui êtes un peu le professionnel de la partie, mais aussi les résidents.
Alors oui, moi je prends grand plaisir effectivement à participer aux plantations avec les résidents. C'est un moment de grand partage. Et alors, par exemple, sur des résidences autonomie où la moyenne d'âge est d'environ 80 ans, on se rend compte que cette génération a connu la ville autrement. La ville beaucoup plus verte, en fait, avec des jardins ouvriers et puis des parents ou une famille, en tout cas, qui dépendait d'un potager ou d'un jardin ouvrier pour nourrir aussi la famille. Donc, ils ont cette expérience du jardinage. Ils ont aussi le lien, finalement, qu'ils ont créé avec ce jardin à l'époque qui était tout important et qui déjà comportait des principes écologiques de compostage, de récupération au jardin, et qui finalement peuvent participer à une transmission intergénérationnelle qui aujourd'hui est un petit peu, je trouve, occultée. C'est-à-dire que cette génération, on oublie un petit peu qu'elle a eu ce lien et qu'elle est encore là, et que c'est maintenant que ça se joue. On est dans cette évolution climatique. C'est vraiment, je pense, une partie de la population sur laquelle, qui est fragile déjà, mais sur laquelle en plus on peut s'appuyer pour revenir à des pratiques un peu plus sobres. Donc oui, l'entretien, oui, la participation à la plantation, l'entretien à condition encore une fois qu'il soit écologique, et la gestion différenciée, je fais une petite parenthèse là-dessus, est un bon moyen d'y parvenir. Clairement, diminuer le nombre de tontes sur l'ensemble des terrains permet de faire des économies, et on peut tout à fait entretenir les parties sur lesquelles on circule pour continuer à profiter du lieu en favorisant aussi la biodiversité.
Le jardin, c'est un bon support pédagogique pour justement faire de la pédagogie autour de l'écologie?
Oui, c'est un très bon support de mon point de vue, en tout cas, dans la mesure où quand on comprend le jardin, on comprend aussi le lien qu'on peut avoir avec je dirais, être humain, avec les végétaux et avec la nature dont nous faisons partie. Donc comprendre l'évolution des végétaux, c'est indirectement comprendre aussi notre évolution à nous et je dirais l'interdépendance qu'on peut avoir avec, avec le jardin et plus globalement avec, avec notre planète.
On parle beaucoup de la flore, mais il y a aussi la faune. Est-ce qu'on a une faune dans ces habitats-là?
Alors, on a une faune qui est malheureusement en nette déperdition en ville. Et oui, on a aujourd'hui des insectes qui reviennent quand on propose par exemple des espaces en jachère qui sont pas entretenus, qui sont laissés libres, je dirais, d'évolution pendant l'année. Donc il y a une faune existante qui demande qu'une chose, c'est à se développer, puisqu'on est rentré dans la 6e extinction de masse. Aujourd'hui, on a un effondrement des espèces et notamment du nombre d'individus par espèce. La faune est présente, mais elle demande surtout à se développer. Voilà. Et donc, jardiner de façon écologique et de façon aussi pédagogique, c'est ça. C'est mettre cette faune en avant, autant que cette flore et finalement le vivant.
Quel projet vous avez aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a plusieurs projets. On a un projet qui est en cours sur une autre résidence autonomie. On a aussi un projet qui est en lien avec le monde de l'industrie, puisque on a des zones industrielles qui sont autour de Lyon, qui sont ultra béton, où il fait très chaud, et où là on a des vrais enjeux de désimperméabilisation, de retour de la nature, de création de voies vertes qui sont complètement absentes, voies vertes, voies bleues, donc en faveur encore une fois de la faune et de la flore locale et existante. Ce sont les projets qu'on a en cours actuellement.
Lucas Yomi, dirigeant de Colibri Urbain, lancé en décembre 2021 par la métropole, le programme d'accompagnement à la végétalisation des copropriétés a déjà permis de financer 70 projets. Le dispositif devrait s'accélérer. Il sera aussi élargi aux établissements médico-sociaux et aux résidences pavillonnaires. Quelques résultats de sport ce week-end. Le Loup n'avait plus joué de match officiel depuis sa défaite écrasante face à la section paloise 40-10 le 2 septembre dernier. Depuis, la Coupe du Monde de rugby est passée. Le Loup a pu aligner 5 de ses mondialistes pour faire face à Clermont au Matmut Stadium de Gerland. Mené au score à la pause 11-16, les Lyonnais se sont repris pour s'imposer avec le bonus offensif 40-22. L'ASVEL a offert pour sa part une première victoire à son nouveau coach Gianmarco Pozzecco en s'imposant à la Astrobal 91-72 face à Strasbourg. C'était la 9e journée de championnat. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une prochaine édition. Passez une excellente journée à l'écoute de nos antennes.